Notre bien-aimé recteur l'avait convaincu de choisir un titre de conférence qui avait été sa tunique de Nessus. Je dois dire que je prends à mon compte le même pensum. J'ai eu, en effet, outrecuidance d'accepter de traiter devant vous cet après-midi, au fond, tout le long 19e siècle, eu égard à l'idée de nationalisme. C'est une imprudence majeure que j'ai eu largement le temps de redouter, et je ne peux donc sur ce sujet qu'introduire une sorte de synthèse. Le thème est extrêmement complexe et je ne prétends apporter absolument rien d'original. Simplement, je voudrais essayer de faire quelques rapprochements et puis, en conclusion, de poser quelques questions. Si le nationalisme a été bien étudié depuis quelques décennies, y compris celui de la fin du XIXe siècle, il n'en reste pas moins que ce mot est affreusement polysémique, piégé, paradoxal, qu'il désigne des notions souvent antagonistes. Il faut donc, avant d'aller plus loin, essayer de définir un petit peu le mot. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, le nationalisme, c'est un néologisme. Il semblerait qu'il soit pour la première fois apparu sous une plume française dans le troisième tome des Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme de l'abbé Baruel. Le passage est très rapide. Il y est dit que le nationalisme prit la place de l'amour général. Alors, il fut permis de mépriser les étrangers, de les tromper, de les offenser. Autrement dit, le nationalisme apparaîtrait dans la langue française comme un concept péjoratif pour stigmatiser une attitude jacobine. Et puis, ce mot qui a peut-être été emprunté selon les uns aux Allemands, selon les autres aux Anglais, paraît quelque peu s'endormir pendant 3 ou 4 décennies. Il ressurgit en 1836 dans un article de Mazzini. Mazzini, dans La Jeune Suisse, reprend le terme à son compte, mais pour le retourner totalement, il désigne par là tout ce qui, chez les monarques, s'oppose à l'émancipation des nationalités, à l'émancipation des peuples opprimés. De nouveau, on emploie très peu ce vocable dans le dictionnaire de Pierre Larousse qui paraît en 1874. Le mot est mentionné avec deux sens. D'abord, l'équivalent de chauvinisme, de patriotisme outrancier, et puis celui de principe des nationalités. Par parenthèse, je dirais que ce mot de chauvinisme a lui aussi une histoire assez amusante et curieuse. On le fait remonter à un soi-disant grognard des guerres de la Révolution et de l'Empire, un certain Nicolas Chauvin, qui aurait, au cours de sa carrière, été 18 fois blessé par devant, décoré de la Légion d'honneur, qui serait un homme de Rochefort, ayant dormi devant la porte de l'empereur au moment où celui-ci partait pour l'exil à Sainte-Hélène. En réalité, les recherches qui ont été faites dans les archives départementales n'ont révélé l'existence d'aucun Nicolas Chauvin. Il s'agit probablement d'une sorte de montage, de fantaisie d'étudiants, probablement, qui avait été chargé de trouver une documentation pour le mot chauvinisme dans le dictionnaire d'Arago. Quoi qu'il en soit, ce terme de nationalisme ne va véritablement entrer dans le vocabulaire politique français et avec une acception positive au moins aux yeux de certains qu'avec un autre article célèbre de Maurice Barrès qui date de juillet 1892 où Barrès oppose les nationalistes et les cosmopolites. Et alors, à partir de lui, on peut définir le nationalisme comme incarnant un certain courant politique français de la fin du XIXe siècle qui accorde un souci prioritaire à l'intérêt national, à l'indépendance nationale, à son intégrité. Mais avant même que nationalisme surgisse, national avait existé et s'était dégagé dans l'ambiance postérieure à la Révolution française. Et bien entendu, nous l'avons vu au cours de ce colloque, l'idée de nation est bien plus ancienne que 1789. Seulement, comme le disait encore à l'instant Jean-Pierre Brancourt, l'idée de nation dans l'ancienne France, c'est tout autre chose que l'idée de nation sous la Révolution, et nationale se rapproche plutôt, là encore, de principe des nationalités, de thème jacobin plutôt qu'autre chose. On peut d'ailleurs observer au passage cette ironie du vocabulaire qui fait que certains thèmes, certains mots comme ça, changent totalement de sens. Révolution nationale, par exemple, était une formule lancée le 31 juillet 1830 par Godefroy Cavaignac à Louis-Philippe d'Orléans pour lui signifier que sa révolution devait beaucoup à 1789. Et l'on sait ce que, 110 ans plus tard, révolution nationale connotera, un sens tout à fait différent. On pourrait en dire autant du mot révisionniste. Révisionniste qui va être un thème adopté par les boulangistes et qui à l'époque contemporaine, désigne tout autre chose, pour ne rien dire, de Kautsky et des réformistes socialistes. Alors, il y a des étrangetés comme ça dans l'histoire du vocabulaire. Et si l'idée de nation est ancienne, le nationalisme, lui, est quelque chose qui est, en tant qu'idéologie, tout de même un thème neuf. Sans doute y a-t-il eu, par opposition à l'universalisme chrétien, depuis les rois nationaux, déjà quelques éléments qui pouvaient conduire à cette idée, dans la mesure où, par exemple, ces rois nationaux brisaient l'unité de la chrétienté, ou bien, à partir de la Renaissance et de la Réforme, lorsque l'on a vu la robe sans couture de la chrétienté également se déchirer. Mais pour que naquît le nationalisme au sens moderne, il a quand même fallu la Révolution française. Encore une fois, non pas que l'idée de nation soit une invention de la Révolution, mais l'idée moderne, nouvelle de nation, est incontestablement due aux événements de 89-92. Dès la Déclaration des droits de l'homme, on trouve dans l'article 3 cette définition: le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. C'est poser le thème de la souveraineté nationale, qui deviendra un peu plus tard souveraineté populaire. C'est dans le même temps poser l'idée que dans le concert des nations, il y a des entités qui vont prétendre n'avoir rien au-dessus d'elles et incarner une idéologie nouvelle des relations internationales. Alors, je voudrais retenir trois moments, trois notions du nationalisme, parce qu'on ne peut pas tout traiter, bien entendu. Ces trois notions que je retiens, c'est d'abord le nationalisme des révolutionnaires, qui est en lui-même une notion fort complexe et auquel on peut rattacher l'idée romantique de la nation. En second lieu, je voudrais examiner le nationalisme comme internationalisme, comme impérialisme plus exactement, pardonnez-moi, le nationalisme comme impérialisme, le nationalisme comme exacerbation conquérante. Et puis enfin, troisième idée du nationalisme, celle justement que l'on voit surgir à partir de Barrès, qui sera reprise par Maurras et par quelques autres, et qui est un troisième sens d'un nationalisme plus protectionniste, plus mesuré, qui s'oppose, mais jusqu'à quel point, c'est ce que nous aurons peut-être à nous demander, aux deux sens précédents. Alors, d'abord, le nationalisme des révolutionnaires. Il est donc né, dès 1789, dans cette affirmation de la souveraineté de la nation. Il est né également de cette idée que la nation française entend désormais ne faire aucune guerre de conquête contre la liberté d'aucun peuple. À première vue, c'est donc une vision tout à fait irénique, humanitariste, pacifique. Or, en quelques années, nous allons voir ce pacifisme devenir étrangement une idéologie de conquête et d'expansionnisme. Comment cela ? Eh bien, peut-être d'abord parce que si la Constituante n'entend faire aucune guerre contre la liberté d'aucun peuple, elle ne se prononce pas sur le problème de savoir si l'on doit libérer ces peuples. Et qu'est-ce que c'est qu'un peuple libre ? Est-ce que la liberté d'un peuple, c'est l'élimination de ses tyrans ? Ou est-ce que la liberté d'un peuple, c'est l'indépendance de sa nation ? Le problème est que la Révolution va résoudre assez rapidement dans le sens que nous connaissons. Au moment de la fête de la Fédération, en juillet 1790, un autre Merlin de Thionville, si je ne me trompe, a eu un mot fameux à propos de l'Alsace. Il nous a expliqué que l'Alsace n'était pas française en vertu des traités de Westphalie de 1648, mais qu'elle était française précisément parce qu'elle l'avait choisie au moment de la Fédération des provinces françaises en 1790. Voilà donc le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui est affirmé par nos constituants en la personne de Merlin. Mais assez rapidement, on va passer du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes à la libération des peuples. Déjà se pose le problème du comtat venaissin, par exemple, qui est une possession pontificale dans le royaume de France. Voilà que les Avignonnais se révoltent et qu'ils demandent leur assimilation à la France nouvelle, révolutionnaire. Cette France qui a proclamé qu'elle ne ferait pas de guerre de conquête va très vite annexer le comtat venaissin. Et ça n'est qu'un commencement. Nous savons qu'ensuite il y aura la théorie des frontières naturelles, qu'il y aura l'idée de la sécurité de la République qui sera protégée par des républiques sœurs sur son pourtour. Il y aura donc assez rapidement une doctrine nationaliste jacobine qui est extrêmement conquérante. C'est un sentiment très exclusif, très fanatique de la nation identifiée à un contenu doctrinal, à un contenu d'idées. La France, c'est désormais la patrie de la Révolution, c'est la nation porteuse d'un message universel. La France incarne l'univers et par conséquent, aimer la France, c'est aussi aimer l'univers. Et les armées françaises vont être les missionnaires de la Révolution. Le salut public va ainsi commander désormais des guerres hyperboliques, des guerres totales, qui s'accompagneront de tout un prosélytisme. La nation révolutionnaire a une sorte de religion. Elle a son hymne national, elle a son drapeau national, elle a ses autels de la patrie, elle a sa liturgie, ses martyrs, ses champions. Et elle va introduire un petit peu partout le despotisme de la liberté. Alors, l'idée de nation ainsi dégagée diffère de l'idée monarchique en ce qu'elle s'identifie à première vue avec un régime politique. Plus encore qu'avec un régime, lorsque l'on crie « Vive la nation » dans un premier temps en accompagnement de « Vive le roi », puis dans un deuxième temps à Valmy par substitution au cri de « Vive le roi », on fonde moins un régime qu'une légitimité nouvelle. Le nationalisme, dans cette perspective, va se présenter comme une tradition qui attache la vie nationale à la souveraineté de la nation substituée à la souveraineté de Dieu. La Révolution entre dans l'histoire par une sorte de subversion métaphysique, de subversion ontologique. Elle est l'affirmation de la laïcité absolue de l'État. Affirmation de la laïcité absolue de l'État qui prend la relève de ce qu'était naguère le droit divin. Alors, cette idée française de la nation reçoit un complément qui est un peu son prolongement et une réaction en partie contre elle en Allemagne. En effet, les Allemands étaient, au début du XVIIIe siècle, très imbus de cosmopolitisme. Mais ils ne constituaient pas véritablement une nation unie. Ils étaient morcelés en une quantité d'États. L'idéal révolutionnaire était de faire coïncider l'État avec la nation. Or, en Allemagne, il y a plus de 300 États et il y a une nation informe qui apparaît davantage comme culturelle, comme intellectuelle, que comme politique. Alors, ces Allemands ont commencé par s'ouvrir aux idées de la Révolution française avec un certain intérêt. Et puis, ils ont fait un peu feu de tout bois, en quelque sorte, et ils ont mêlé un jacobinisme populaire, un culte rousseauiste du patriotisme, avec les idées de Burke, les idées traditionnalistes, et à travers en particulier Herder et puis surtout Fichte, dans ses discours à la nation allemande, ils ont réagi à partir des défaites de Napoléon devant les défaites de Jena, les défaites de la Prusse devant la conquête napoléonienne. Les Allemands se sont en quelque sorte intériorisés dans leur nationalisme et ils ont réfléchi à cette idée que seuls de toutes les tribus germaniques qui avaient conquis l'Europe, le peuple allemand avait conservé sa langue. Il avait par là un caractère distinctif et fondamental. C'est la langue qui relie les corps et les esprits, c'est la langue qui unifie la nation, et seul un peuple dont la langue est vivante peut jouir d'une culture elle-même réellement vivante. Seul un peuple dont la langue est vivante peut avoir une culture populaire. Et ainsi, on a assisté à cette sorte de revanche paradoxale de ce cosmopolitisme converti en nationalisme. Il y a eu un appel aux historiens et aux philologues mobilisés au service de la cause nationale allemande. Alors, cela s'est manifesté de bien des manières. Par exemple, Savigny va entreprendre la lutte contre le droit national, le droit naturel moderne, héritier de la philosophie des Lumières, héritier du rationalisme. Il y oppose la coutume, qui est un droit vivant, qui est un droit historique. Liszt va développer l'idée d'un système national d'économie politique qui doit combattre le libéralisme économique pour s'enfermer également dans un nationalisme conséquent. Et ces idées romantiques vont ressurgir d'une certaine manière en France. Elles se retrouvent autour, par exemple, d'historiens romantiques tels qu'Edgar Quinet ou Michelet, qui vont introduire un certain chauvinisme dans l'historiographie des années 1830-1848. Quinet, par exemple, à la fin de sa vie, écrit « J'ai admiré la France ». Il y a chez lui cette idée déjà que la France est une personne. Il a le culte d'une France armée, révolutionnaire. Il a la haine des traités de 1815. Il y a chez lui de la répulsion pour ce que sera le pacifisme de la monarchie de Juillet qui le navre. Il veut une guerre capable de rendre à la France la rive gauche du Rhin. Alors, certains Allemands ont partagé ce sentiment, mais assez vite l'ont abandonné. Et dans les années 1840, la polémique s'engage entre ces Français et les Rhénans. Michelet va se situer tout à fait sur le même registre. Michelet, dont Maurras disait qu'il a fait de la pensée avec son cœur, est l'auteur de quelques ouvrages extrêmement fameux, comme Le Peuple, par exemple, où il nous rappelle que par-devant l'Europe, la France n'aura jamais qu'un seul nom inexpiable, qui qui est son vrai nom éternel, la Révolution. Et il nous dit que les Français ont épousé la Révolution. Curieusement, il condamne le romantisme comme stérile et infécond, alors qu'il en est l'adepte évident. Il déteste le Moyen-Âge et ses affreux donjons noirs. Il se déclare jacobin et centralisateur. Mais il est l'homme des paysans contre le prolétariat. Il est très hostile au métissage. Beau rêve, dit-il, que le métissage. Mais nous ne devons pas y céder trop facilement. Un certain élément neutre, incolore, blafard, en résulterait, écrit-il dans La Femme. Et certaines races sont trop différentes pour être impunément mélangées. L'accomplissement de cette sorte de pureté a quelque chose d'un petit peu étrange, mais est très net chez lui. Il nous explique par exemple que le mariage d'un Français et d'une Allemande, plaisant quoique monotone, présente des risques majeurs. L'enfant, s'il y a enfant, ne vit pas toujours. Le plus souvent, il est faible et agréable. Rarement, il conserve l'étincelle paternelle. Ni français, ni allemand, il devient européen. C'est assez curieux, n'est-ce pas, comme appréciation. Le risque est bien plus grand si l'on veut marier un français et une anglaise. Là, il y a incompatibilité totale parce que l'anglais, c'est le financier, c'est l'homme qui va là où il y a du profit à tirer, alors que le français, lui, a épousé la France et il reste fermement attaché. Alors, catastrophe en cas d'union contre nature entre un français et un anglais. On ne peut absolument rien en espérer que de fâcheux. L'anglais est vagabond, encore une fois, il va là où il y a du profit. Le français, lui, au contraire, est très sensible à son terroir. Et Michelet, je le note comme j'aurais déjà pu le noter à propos de Fichte, est extrêmement antisémite. Il admire, par exemple, les écrits d'Alphonse de Toussenel, les Juifs rois de l'époque, voilà, et il explique que le juif, c'est l'introduction de l'or, cette petite chose mobile, échangeable, divisible, facile à manier, facile à cacher. On croit entendre certains échos de Locke, n'est-ce pas, sur l'or déjà. L'oncle juif, c'est l'antithèse avec l'or qu'il manipule de la terre immuable. Et il va ainsi inspirer à Barrès, par exemple, à la fin du siècle, son déterminisme de la terre et des morts. Il y a donc une alliance étroite chez ce Michelet, homme de gauche, républicain, patriote, avec l'anticapitalisme et avec le militarisme. Michelet est un belliciste, il admire l'armée libératrice que la France doit posséder pour imposer au monde les idées généreuses qui sont les siennes. Les nations, dit Michelet, sont de grands et beaux systèmes. Et en commençant son introduction à l'histoire universelle de 1831, il a ces quelques lignes. Ce petit livre pourrait aussi bien être intitulé « Introduction à l'histoire de France », parce qu'il aboutit à la France et que la France est désormais le pilote du vaisseau de l'humanité. La France, c'est le Dieu des nations. La France, c'est le Christ des nations. La France, c'est véritablement la médiatrice de la révolution qu'il faut porter à travers le monde. Alors, voilà la perspective jacobine française. C'est l'idée que le nationalisme s'identifie avec le principe des nationalités. Toute nation doit se constituer en État, y a droit, Et c'est ce brûlot qu'il faut lancer contre les traités de 1815 pour que la justice règne à travers l'Europe d'abord, à travers le monde ensuite. Deuxième idée de nationalisme dont je voudrais dire quelques mots, c'est celle que l'on peut qualifier d'impérialisme et qui a été particulièrement maniée en Allemagne. Alors, on peut trouver bien des auteurs pour l'incarner. Je voudrais d'abord parler d'un historien contemporain et ami de Bismarck, Treitschke. Treitschke est éminemment représentatif de son milieu. C'est un militaire raté qui est plein d'admiration pour l'armée. Il était sourd, il n'a pas pu faire une carrière militaire, mais il a mis sa plume au service de cette caste militaire prussienne qui a toute son admiration. Alors, il avait été appelé à l'université de Berlin en 1874 par Bismarck, et il a été l'un des éducateurs, certainement, de l'Allemagne wilhelmienne des années 90. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit d'abord que l'État est au-dessus des lois internationales. Et il se livre à une apologie de la guerre, avec des accents que l'on aurait pu retrouver chez Joseph de Maistre, voire chez Luther. Les traités ne lient pas l'État. L'État est souverain, il est autarcique, c'est un absolu. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Treitschke cite volontiers ce mot du roi Gustave Adolphe: « Au-dessus de moi, je ne reconnais personne, sauf Dieu et l'épée du vainqueur. » C'est en effet de l'essence de l'État de n'admettre au-dessus de soi aucune force. L'État doit donc avoir une susceptibilité sourcilleuse. Les seules limitations possibles de sa souveraineté sont celles qu'il consent à lui-même. Les liens qu'il a contractés volontairement restent sous la dépendance de sa volonté, et le droit international, si tant est qu'il soit une réalité, n'est jamais que la suite des contrats internationaux passés sous réserve que l'intérêt des États demeure. Il faut constamment sous-entendre la clause rebus sic stantibus. L'État n'a pas de juge au-dessus de lui. Il n'y a donc pas véritablement de droit international supérieur. Seul l'État est le juge de sa cause. Alors, la guerre, c'est quelque chose de moral. La guerre est sainte parce qu'elle stimule les plus hautes vertus morales de l'homme. Elle élève l'homme au-dessus de son égoïsme jusqu'au sacrifice suprême. Elle permet de goûter à cette sorte de communion patriotique qui recèle une jouissance raffinée. Tout à l'inverse, la paix a quelque chose de matérialiste. C'est le triomphe d'intérêts personnels, égoïstes, aux dépens du dévouement et du sacrifice. Donc, vouloir supprimer la guerre, ce serait vouloir exclure l'héroïsme de l'humanité, et ce serait incontestablement une régression. L'État, dit Treitschke, c'est une puissance. Der Staat ist Macht. C'est une puissance. Ce qui fait d'abord et avant tout cette puissance, c'est la force physique de la nation, c'est-à-dire son armée. Il y a eu, il est vrai, des États qui ont, à travers l'histoire, cherché la gloire dans les arts, dans les lettres, dans les sciences. Mais ils ont toujours fini par succomber. Athènes s'est inclinée devant Sparte, la Grèce s'est inclinée devant Rome. Il n'y a vraiment que la force qui permette de faire durer les États. Alors, Treitschke a un mépris pour tout ce qui constitue les petits États. les états faibles qui sont au fond indignes d'exister en tant que tels. C'est une contradiction dans les termes que d'imaginer un état petit et faible. Seuls les grands états qui ne se laissent pas enfermer dans des limites trop étroites et qui ont besoin d'espace au soleil sont respectables et capables de stimuler un orgueil national très sain. Les petits États aujourd'hui ne sont plus que des survivances. Par conséquent, l'État doit s'élever au-dessus de la morale ordinaire. Traitschke réhabilite Machiavel. Le seul devoir de l'État, c'est d'être fort et c'est d'agir en conséquence. Entre l'individu et l'État, il n'y a pas de commune mesure. La morale de l'un ne saurait être la morale de l'autre. Il faut distinguer avec soin entre morale privée et morale publique. Le devoir de l'État, c'est de développer sa puissance en toutes choses. Et à cet égard, on peut dire que la fin justifie les moyens. Alors, cela dit, qu'est-ce que ces théories ont donné après la disparition de Bismarck à la fin du XIXe siècle? On rencontre ici le thème bien connu du pan-germanisme, issu d'un sentiment de la supériorité allemande, né de ses victoires de Sadova, des victoires sur la France, de développement économique de l'Allemagne, de son prestige intellectuel considérable. La philosophie allemande, la musique allemande, l'université allemande sont au sommet de leur gloire au XIXe siècle et propagent incontestablement ces sentiments. Dans une certaine opinion publique allemande, un sentiment qui est favorable à cette idée d'un nationalisme expansionniste, un nationalisme conquérant. Il se manifeste donc en particulier par la création de ligues pan-germaniques. Dès 1886, le docteur Peters, qui est un colonial célèbre, l'un des fondateurs de l'Afrique orientale allemande, crée une ligue pour la défense des intérêts allemands au-delà des mers. Une ligue essentiellement coloniale, qui va à son tour grossir, s'augmenter des intérêts allemands en Europe, et qui va, à partir de 1892, donner naissance à la Ligue pan-germaniste proprement dite. Cette Ligue n'a pas un recrutement extraordinaire. Elle a au maximum 21 000 adhérents. 21 000 adhérents en 1892. En 1901, ils sont 22 000. Entre-temps, ça fluctue quelque peu. C'est relativement peu de choses, bien qu'il s'agisse de personnages influents, des députés, des universitaires, des hommes qui ont du poids dans l'opinion. Leur but, c'est d'ailleurs de conquérir cette opinion par des publications, par des livres, par des feuilles, afin d'engager le gouvernement dans une expansion qui est nécessaire à la vie et à la grandeur de l'État. Expansion hors d'Europe, notamment puisque les partages coloniaux sont largement effectués par le jeu de sphères d'influence. Expansion en Europe également à travers l'idée de nationalité que l'un des présidents de la Ligue, le professeur Hasse, définit comme étant la conscience d'appartenir à une même collectivité et d'avoir un intérêt commun et d'autre part parler la même langue, ce qui est d'ailleurs l'élément décisif. Hasse ajoute et reprend en partie à cet égard Traitschke que si l'on peut retourner le principe des nationalités peut-être contre les Allemands eux-mêmes, il ne faut pas se laisser impressionner parce qu'il y a lieu de distinguer entre de grands peuples, Kulturvölker comme il dit, et des petits peuples. Seuls les grands peuples ont le droit d'être conquérants et expansionnistes. Les petits peuples n'ont pas le droit à constituer un État. Ils peuvent être des nationalités, les Tchèques, les Polonais, les Lituaniens, les Wallons, il n'en demeure pas moins qu'ils doivent être sous la coupe d'États puissants, et en l'occurrence de l'Empire allemand. Alors, il y a à l'époque de Hasse, à la fin du 19e siècle, quelques 62 ou 63 millions d'Allemands dans l'Empire. Il y a 25 millions de germanophones qui doivent directement ou indirectement, un jour ou l'autre, être ramenés dans ce bercail de la Germanie. Partout où l'on parle allemand, partout il y a place pour la germanité. Bien entendu, une grande armée allemande s'impose pour réaliser ce programme, et la Ligue essaye de le faire passer dans les faits. En fait, elle n'y réussit pas. Et il y a eu toutes sortes de polémiques chez les historiens allemands, dans l'entre-deux-guerres d'abord et depuis la guerre ensuite, pour savoir s'il fallait trouver dans ce pan-germanisme les racines du phénomène nazi, ou bien si Hitler était un démon personnel diabolique devant tout à lui-même. Alors, dans l'entre-deux-guerres, d'un côté, les historiens français avaient tendance à gonfler le pan-germanisme et à lui accorder de lourdes responsabilités dans l'impérialisme allemand. De l'autre côté, les Allemands, eux, minimisaient la portée du pan-germanisme. Il y a eu, à la fin du XIXe siècle, une querelle célèbre entre Jaurès, d'une part, et un professeur germaniste de la Sorbonne, Charles Handler, qui disputait sur le point de savoir si le pan-germanisme avait ou non gagné les socialistes allemands eux-mêmes. Marx avait bien affirmé que les ouvriers n'avaient pas de patrie, mais Handler n'en était pas du tout convaincu, et il avait le sentiment qu'au contraire, les ouvriers allemands étaient fort sensibles aux sirènes du pan-germanisme. Jaurès soutenait le contraire, et on sait qu'il soutiendra jusqu'à la veille de la guerre cette illusion. En fait, les ouvriers allemands soutinrent comme un seul homme, ou à peu près, le Kaiser. Et Handler avait raison sur ce plan-là de sentir combien le sentiment nationaliste avait envahi l'ensemble de la population. Toujours est-il que le pan-germanisme a durci le nationalisme allemand à la fin du XIXe siècle. Il y a une Weltpolitik germanique qui prend d'ailleurs parfois des allures déjà raciales ou racistes, à travers par exemple Paul Anton de Lagarde, dont les nazis feront grand cas, à travers Chamberlain, à travers les relectures de Gobineau, qui a été davantage prophète en Allemagne qu'en France. Ce qu'il convient aussi de dire, c'est que cette doctrine n'a jamais été celle des autorités officielles allemandes. La Ligue pan-germaniste est restée l'affaire d'une minorité. Elle n'a pas été au pouvoir. Elle n'a pas obtenu l'accord d'aucun membre du gouvernement allemand. Et il faut la resituer dans un contexte général qui est celui de l'exacerbation de tous les nationalismes européens. Alors, troisième idée dont je voudrais parler maintenant, c'est le nationalisme des nationalistes, le nationalisme tel qu'il surgit en France à la fin du XIXe siècle. Le tournant, ici, se situe autour de la guerre de 1870-71, a été un profond traumatisme pour les intellectuels français notamment. Il y a eu alors un véritable retournement, une sorte de crise de conscience qui a invité un Renan à réfléchir sur la réforme intellectuelle et morale de la France. N'était-ce pas parce que la France avait suivi les idéaux révolutionnaires qu'elle avait été battue par la Prusse? Fustel de Coulanges, Renan et d'autres réfléchissent alors à ce qu'est une nation. On faisait allusion ce matin à cette fameuse conférence de Renan, qu'est-ce qu'une nation? Il fallait répondre aux historiens allemands qui, au nom de la germanité et de la langue, avaient réclamé l'annexion de l'Alsace-Lorraine. La revanche devient pour beaucoup reine de France, l'armée est sacralisée, mais la Ligue de la Patrie française qui se crée dans les années 1882 autour de cette idée de revanche est encore très proche des idées du gouvernement de la défense nationale, des idées de Gambetta, des idées des républicains qui avaient justement prôné la guerre à outrance en 1871, à l'heure où au contraire, curieusement, c'étaient les conservateurs monarchistes qui réclamaient la paix et qui voulaient quelque peu dépassionner ce bellicisme néo-jacobin. Alors, on se trouve à ce moment-là en présence d'un changement de mentalité intellectuelle qui est tout à fait remarquable. Il y a une sorte de méditation sur une idée de décadence. Maurras se demandera, serons-nous les derniers des Français ? Il y a l'angoisse obsédante de la mort, de la disparition. Les nations prennent conscience de ce qu'elles sont mortelles. Comment retenir une patrie qui est en train de se défaire ? Quelles sont les conditions d'une survie de la patrie ? Le nationalisme français qui va alors surgir, à la différence de ce qui précède, est un nationalisme de défense, un protectionnisme, un repli. Défense contre les menaces extérieures, comme le pan-germanisme, mais aussi défense contre les menaces intérieures. L'invasion, on retrouve les thèmes, l'apatride, le métèque, comme dira Maurras, l'influence juive que dénonce Drumont, le cosmopolitisme, l'internationalisme qui est en train de gagner une partie de la gauche, la franc-maçonnerie qui est extrêmement puissante. Tout cela constitue une sorte de menace, de destruction de l'intérieur de la nation française. Donc, il va y avoir là un nationalisme de défense, de repli, qui est d'ailleurs méfiant à l'égard des aventures coloniales que lui propose Ferry, en détournant ainsi les sensibilités de la ligne bleue des Vosges. C'est un nationalisme qui prend un aspect assez fermé, assez jaloux, qui se replie sur soi, qui prononce des exclusives et des excommunications, et qui reste extrêmement blessé par la défaite de 70-71. Et puis alors, un événement va faire basculer ce nationalisme qui était initialement une idée de gauche vers la droite, c'est la crise boulangiste. La crise boulangiste a frappé, a mordu, disons, sur tous les électorats français, aussi bien à droite qu'à gauche. Boulanger est à l'origine un général républicain, c'est lui qui avait destitué de leur grade les princes d'Orléans à l'armée, c'est lui qui avait infligé le service militaire aux curés, les curés Sacodo, c'est un général démagogue, c'est un général, encore une fois, lié à la République de gauche. Il est anti-parlementaire et il va de ce fait attirer à lui toutes sortes d'opposants. Toutes sortes d'opposants, en particulier le comte de Paris de l'époque, qui représentait le courant conservateur de la branche d'Orléans, n'hésite pas à faire litière de toutes les idées de sa famille pour se rallier à cette cause nouvelle. Duc d'Aumale dira à ce sujet que le manifeste qu'il a publié aurait dû être signé Philippe de Macédoine et non pas Philippe d'Orléans, tant il y voit le reniement de son passé. Mais tous les partis y passent, que ce soit encore une fois les républicains ou que ce soit les bonapartistes qui retrouvent une sensibilité plébiscitaire chez Boulanger ou que ce soit les légitimistes mêmes qui à l'époque se partagent. Maurice d'Andigné par exemple sera boulangiste alors que le prince de Valorine ne le sera pas. Et puis, dernière grande affaire qui va bouleverser encore ce monde du nationalisme, c'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, qui cette fois-ci va mobiliser contre l'armée toute une partie de l'intelligentsia. Et pour la première fois, il y a coupure entre les gloires militaires et la République. C'est un moment crucial que nous avons quelque peine à mesurer aujourd'hui, la distance aidant, mais qui a profondément enraciné le nationalisme nouveau. Alors, je voudrais retenir brièvement deux noms, celui de Barrès, bien sûr, et celui de Maurras. Barrès, c'est un Lorrain, n'est-ce pas, qui sort du culte du moi pour celui du moi national, comme il le dit, qui va s'enraciner dans la terre et les morts, qui va essayer de se faire boulangiste dans un premier temps, et puis de prolonger quelque peu l'échec de son idole. Barrès n'est pas un doctrinaire très profond, il réagit surtout de manière sentimentale. Il défend ce qu'il appelle l'instinct des humbles contre la logique des intellectuels. Il y a chez lui un aspect contestataire, plébéien, socialisant, un culte de la jeunesse, de l'énergie, de l'aventure, la répudiation des normes de la vie et de la société bourgeoise, un romantisme de l'action, un abandon aux forces obscures de l'être. Et puis il y a aussi chez lui un visage plus conservateur pour assurer la survie de la communauté nationale qui est menacée d'être décérébrée. Il convient de s'appuyer sur les forces de l'ordre, de la hiérarchie sociale, l'armée, l'Église, les institutions en place. Barrès, noté dans ses carnets, « En politique, je n'ai jamais tenu profondément qu'à une seule chose, la reprise de Metz et de Strasbourg. Tout le reste, je l'abandonne à ce but principal. En religion, je trouve insupportable d'entendre insulter ce que les miens respectaient, ce qui est lié à des images familières et chères. J'accepte délibérément d'être Lorrain et Français. » Il y a en effet chez lui à la fois ce régionalisme vivant, comme chez Maurras d'ailleurs, et ce nationalisme romantique et profond. Barrès a cité l'exemple de cet émigré français, Chamisseau, qui avait dû, en 1790, abandonner la France pour aller en Allemagne, puis était revenu en France et avait erré entre ces deux pays en disant « Je suis partout étranger ». Il en avait sorti un livre qui rappelait ce que l'on nous disait ce matin à propos d'un ouvrage de Jean Raspail. Chamisseau a écrit « L'homme qui a perdu son ombre ». Et l'homme qui a perdu son ombre, disait Barrès, c'est l'homme qui a perdu son âme nationale. Voilà ce que lui veut retrouver, cette idée d'une nation profondément enracinée et vivante. Alors, ce nationalisme, tout de même très, très romantique et très sentimental, Maurras va essayer de lui apporter un complément, d'en faire quelque chose d'infiniment plus structuré et doctrinal. Lui aussi part d'une réaction de défense. Il écrit dans un ouvrage rédigé à la veille de la Grande Guerre, devant l'Allemagne éternelle, « Le mal vient des peuples qui s'abandonnent à l'étranger ». Après s'être livré à de mauvais chefs. Qui veut garder son indépendance, son intégrité, ou le libre emploi du moindre pécule doit aussi vouloir résister. Ce qui n'est plus tenu ne peut être gardé. Résisterons-nous? Le veut-on? Tout est là. Notre génération a voulu résister, elle s'en souvient. Les générations nouvelles l'ignorent, je viens le leur rappeler. Cela dit, Maurras est conscient cependant de ce que le nationalisme n'est pas pleinement satisfaisant et est une sorte d'expédient douloureux. C'est quand on y songe une extrémité odieuse et abominable qu'il ait fallu susciter un état d'esprit nationaliste pour permettre la défense de la nation, écrit-il dès 1908. Alors, il a néanmoins une méthode qu'il appelle l'empirisme organisateur, qui est la mise à profit des bonheurs du passé avec en vue l'avenir que tout esprit bien-né souhaite à sa nation. Il défend le nationalisme intégral qui est l'aboutissement monarchique pour lui nécessaire du nationalisme. Il vient par conséquent à la monarchie non pas comme on le faisait naguère par loyalisme dynastique ou par catholicisme mais par nationalisme. Nous ne faisons pas, dit-il, de la nation un dieu, un absolu métaphysique. Nous observons que la nation occupe le sommet de la hiérarchie des idées politiques. Voilà tout. Il n'en reste pas moins que cette nation, c'est quelque chose dont l'intérêt prime tout. Même si ce n'est pas un nationalisme clos, même s'il voit dans la nation une sorte d'étape vers l'universel, dans les conditions présentes de nécessité, il faut commencer par réfléchir à l'intérêt de la nation. Alors, cela amène Maurras à un certain nombre de slogans qui ne sont pas toujours bien compris ni peut-être très heureux. Non seulement il y a cette idée de nationalisme intégral qui n'est pour lui qu'un nationalisme monarchique et non pas un nationalisme sans frein, mais il y a l'idée du politique d'abord qu'il définit comme un ordre de priorité et non pas de primauté, antériorité du moyen politique sur tout le reste. Et puis il y a cette idée que l'on doit parvenir par tous les moyens, même légaux. Alors, tous les moyens, cela sous-entend honnête, en principe, mais il lui arrive de dire « nous ne sommes pas des gens moraux ». Il y a, dans la manière d'écrire de Maurras, qui est un esprit extrêmement subtil, sensible et difficile, il y a le fait qu'il est un journaliste et un polémiste. Il écrit chaque jour dans un quotidien, il essaye de répondre à des problèmes concrets et non pas à rédiger une doctrine d'ensemble. Par conséquent, ce qu'il dit a quelquefois une coloration de violence ou d'approximations qui peuvent quelque peu fausser son propos et qui l'amènent à se corriger. Il a des mots qui lui échappent. Il lui est arrivé de parler de la déesse France, par exemple, tout en disant que ça n'était pas un absolu métaphysique. Mais enfin, les mots sont un petit peu fâcheux. Alors, Maurras, d'autre part, est un positiviste. Et son maître, c'est Auguste Comte, il ne le renie pas. Il lui a longtemps été très difficile de trouver une position doctrinale en accord avec le christianisme, même s'il n'est pas athée, mais agnostique. Il a eu des mots très durs, en particulier, sur la notion de droit divin. Dans Le Soleil, du 1er juillet 1900, il écrit par exemple ceci: à d'autres, le vieux droit divin, solennelle sottise des courtisans inintelligents du passé. Formule est nette et sans embâge, n'est-ce pas ? Et on pourrait en trouver beaucoup d'autres qui sont très, très durs à l'égard du christianisme, qui l'oppose au catholicisme. les quatre juifs obscurs, les turbulentes écritures orientales, les miasmes de l'esprit prophétique et millénariste, le venin du Magnificat, etc. Toutes ces formules que la démocratie chrétienne utilisera volontiers contre lui, certes ne doivent pas être isolées de leur contexte, mais enfin, elles existent et elles ont été parfois reniées par Maurras lui-même, qui dans un premier temps a eu, encore une fois, une attitude peu orthodoxe, c'est le moins qu'on en puisse dire. Mais, en définitive, on s'aperçoit qu'il y a, dans ces trois affirmations du nationalisme au XIXe siècle, des oppositions assurément nettes. Le nationalisme jacobin est révolutionnaire. C'est ce que l'on a quelquefois proposé d'appeler, plutôt que nationalisme, et pour le bien distinguer de ce qui suit, un nationalitarisme. C'est l'affirmation du principe des nationalités. Le mot de nationalitarisme avait été proposé par un publiciste de l'entre-deux-guerres, René Joannet. Il n'est pas sûr qu'il ait beaucoup franchi le cercle étroit de ses lecteurs, mais enfin, il a le mérite d'essayer de ne pas confondre les notions. L'impérialisme, c'est un durcissement exagéré de l'idée de patriotisme. Reste le troisième nationalisme, qui est sans doute le plus acceptable aux yeux des chrétiens et aux yeux de la tradition. N'y a-t-il pas néanmoins entre ces différents courants une continuité ou des éléments de continuité? Je disais tout à l'heure que la Ligue des Patriotes, au départ, comprenait beaucoup de républicains radicaux ou opportunistes, que le ralliement s'est fait sur des thèmes politiques comme l'antiparlementarisme, le souci du primat de la nation, mais non sans équivoque. Le culte de l'armée, par exemple, qu'est-ce que sera cette armée nouvelle? Est-ce que c'est l'armée patriotique, messianique de la Révolution, celle que l'on retrouvera au XXe siècle dans beaucoup de pays du tiers-monde? Ou bien est-ce que c'est l'armée de l'ordre, l'armée garante de l'ordre bourgeois des journées de juin 48? Est-ce que c'est l'armée autorité? Est-ce que c'est tout simplement l'armée protectrice de la nation française? Il y a aussi un courant de syncrétisme sentimental entre les différents nationalismes. L'idée d'une fièvre qui traverse, comme dit Barrès, qui emploie le mot, une sorte de fièvre qui va du nationalisme jacobin au nationalisme de la fin de siècle. Une idée, chez tous ces auteurs, de révolte contre la révolution industrielle, contre une nostalgie d'un monde terrien, artisanal, pré-industriel. Il y a l'idée que l'on est, comme dit Barrès, déraciné, qu'il s'agit de retrouver des racines dans une société qui est en train de s'urbaniser, de s'industrialiser, de se laïciser. Barrès dit « J'ai ramené ma piété du ciel sur la terre de mes ancêtres. » Le patriotisme, c'est quelque chose que Maurras ne distinguait pas du nationalisme. En réalité, il est probable qu'il y a une nuance. Le patriotisme est un sentiment ancien, c'est une vertu chrétienne riche, complexe, qui suppose de l'humilité, de la modestie, de la charité, et qui est un sentiment qui apparaît en se posant, en s'affirmant. Le nationalisme, au contraire, surgit en s'opposant. Le patriotisme est une amitié, le nationalisme est surtout un isolement, une sorte de fierté, d'orgueil.
Il y a chez Julien Benda, qui n'est pas un auteur très recommandable, mais qui a quelquefois tout de même des jugements qui donnent à réfléchir, cette phrase que j'emprunte à la trahison d'Éclair. Le sentiment national, en devenant populaire, est devenu surtout l'orgueil national, la susceptibilité nationale. Combien il est devenu par là plus purement passionnel, plus parfaitement irrationnel et plus fort, il suffit pour le mesurer de songer au chauvinisme, forme de patriotisme proprement inventée par les démocraties. Et c'est un démocrate qui nous l'assure. Par conséquent, on peut l'en croire sur parole. Peut-être que finalement, le point le plus important, c'est que le nationalisme apparaît comme un phénomène de transfert du sacré. On nous disait tout à l'heure que la mort de Louis XVI était la désacralisation de la royauté, était la fin d'un monde, en effet, la fin de l'ancienne France. Eh bien, ce qui s'est introduit par cette rupture, c'est justement un ersatz, en quelque sorte. Il a fallu remplacer le sacré religieux de naguère par un sacré qui a souvent chance d'être un sacré démonique et non plus un sacré surnaturel. C'est dans cette idée de nation que l'on va trouver le substitut du roi très chrétien de naguère. Alors, est-ce que c'était inévitable? Est-ce que le nationalisme était la seule façon de combler ce vide introduit par la Révolution française? Ce n'est pas absolument sûr. Ce n'est pas absolument sûr. Je pense que, par exemple, le courant légitimiste du milieu du XIXe siècle proposait autre chose. Proposait cette idée de légitimité qui restait enracinée dans la tradition chrétienne sans tomber dans les excès, la fièvre du nationalisme de la fin du XIXe qui est, quoi qu'on veuille bien dire, tout de même largement un héritier de la Révolution. Alors, une révolution que l'on a essayé de canaliser, de dompter, mais une révolution tout de même, car Maurras, quelles que soient les qualités qu'on ne saurait lui contester à bien des égards, est un homme qui démontre la monarchie comme un théorème, par exemple, est un homme qui rationalise son royalisme, est un homme qui essaye de trouver quelque chose de nouveau. C'est un royalisme moderne, ça n'est plus un royalisme de la tradition. Comme on nous le rappelait opportunément avec M. Le Flemme ce matin, l'Europe est derrière nous.